Les par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2017 et je suis vraiment ravie de vous accompagner encore aujourd'hui pour vous présenter les paractualités avec aujourd'hui en titre. Bien sûr, la semaine québécoise de la déficience intellectuelle est encore à l'honneur. Au-delà de la trisomie, il y a Rosalie. Et également, au-delà de l'autisme, il y a le dessinateur Rem Roff qui utilise ses talents de dessinateur pour passer outre la maladie. Je vais m'entretenir avec Madame Linda Gouzins, qui est responsable des programmes éducatifs du Musée des Beaux-Arts de Montréal au sujet des visites pour les non-voyants. Aussi à l'émission, une vidéo touchante qui démystifie la déficience intellectuelle. Et puis, puisque nous en parlons de la déficience intellectuelle, eh bien parlons-en notamment à Saint-Jérôme qui va organiser une journée d'information. Également dans le domaine national, au Canada, au Manitoba, manque d'accessibilité à l'Assemblée. On aura le droit à une visite guidée de Stephen Fletcher à Rick Hansen. Et en Syrie, Handicap International dit stop au massacre de civils. Un deuxième entretien aujourd'hui avec Mme Gayle Ouellette, qui est directrice du regroupement québécois des maladies orphelines, au sujet du premier salon des maladies orphelines qui s'est déroulé il y a peu de temps. Alors, au-delà de la trisomie, il y a la petite Rosalie et ce témoignage d'une maman de trois fillettes telle que Madame Renée-Claude Doucet, journaliste, nous l'écrit. À son troisième accouchement, Madame Millette ne savait pas qu'elle allait donner naissance à un bébé différent. Et aujourd'hui, elle et sa famille voient la vie autrement. Pour eux, ils ont la chance d'avoir un petit ange à leur côté. Madame Millette, qui est membre de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 Lanaudière, l'APETL, depuis quelques mois. Elle s'est d'abord tournée vers l'organisme pour dénicher des références en matière de services de santé pour sa fille Rosalie, aujourd'hui âgée de 9 mois. À l'hôpital, lors de la naissance de son bébé, Annick a eu l'impression d'être un peu laissée à elle-même. « Peut-être parce que je suis infirmière, dit-elle. On pensait que je n'avais pas besoin d'aide. Elle et sa famille sont donc heureuses de pouvoir compter sur l'oreille attentive à l'APETL. La Terrebonnienne est maman de trois fillettes. Jasmine, 4 ans, Alice, 2 ans et demi, et Rosalie, 9 mois. Pour Annick et son conjoint, je vous le disais, c'était dans le titre, la petite Rosalie est arrivée comme un ange. Malgré les rhumes qui ont parsemé le quotidien de Rosalie au cours de l'hiver, la petite a la chance d'avoir une bonne santé. Certains enfants trisomiques composent également avec des problèmes physiques, mais ce n'est pas son cas. La clé pour les jeunes trisomiques, c'est la stimulation. Ces enfants en ont encore plus besoin que les autres, indique la maman qui est heureuse de pouvoir bénéficier du service de la joujouthèque de la PETL. Elle a déjà eu l'occasion d'emprunter des jouets de stimulation et différents accessoires tels qu'un miroir qui permet à Rosalie de se pratiquer à se lever la tête pour se regarder, un siège bombo par exemple pour apprendre à s'asseoir et des ballons de physiothérapie. Alors soulignons que les membres peuvent emprunter à la joujouthèque 3 jouets et un livre pour une période de 4 semaines. Et à ce jour, ce sont 1548 jouets qui sont disponibles. Les usagers ont également accès à du matériel spécialisé tel que des chaises hôtes, des bicyclettes et des jeux de motricité globale. Ce service s'adresse aux parents d'enfants trisomiques, mais aussi aux parents d'enfants ayant un handicap et ou intellectuel, de même qu'un trouble d'apprentissage. Faire de son autisme un atout artistique, eh bien c'est ce qu'a fait le dessinateur Rem Roff, ou Remrov, R-E-M-R-O-V, qui va exposer certaines de ses œuvres au Centre Léonard de Vinci pendant une semaine. Cet artiste autiste a choisi d'utiliser son handicap pour en faire une force. Avec son oiseau, Pilaf, systématiquement posé sur son épaule ou au creux de sa main, il dessine le monde à travers ses yeux d'autiste. Je vois le monde comme une infinité de minuscules détails et mes dessins sont donc comme cela, analyse le dessinateur montréalais qui dessine beaucoup d'animaux parce qu'il les aime et qui vient aussi de terminer un portrait de l'acteur Benedict Cumberbatch car il aime beaucoup la série Sherlock. Voilà, c'est celui qui joue dans Sherlock et le personnage est autiste, ce que j'ignorais complètement et je partage complètement ce qu'il ressent, nous dit le dessinateur Rem Roff. Longtemps bridé par son handicap en société, ce jeune autiste a mis du temps avant de réussir à s'exprimer librement. Le chaos de la ville le perturbe néanmoins encore et il ne trouve le repos qu'à travers le tracé de son crayon. par ses réalisations artistiques, Remroff est devenu un porte-parole de l'autisme et participe à de nombreuses conférences pour parler de sa différence et l'expliquer. J'éveille les consciences. Je pense qu'il est essentiel de montrer ce qu'on est capable de faire et de s'intéresser à nos forces plutôt qu'à nos faiblesses, estime-t-il. La salle Leonardo de Vinci, ou de Vinci, si vous préférez, c'est à Saint-Léonard. Alors, j'imagine que c'est assez facile à trouver par un petit coup de Google. Il y a déjà eu au musée des Beaux-Arts un jeune autiste qui avait exposé quelques-unes de ses toiles, une quarantaine en fait, c'est beaucoup. Il s'appelle Maxwell Beaton ou Byton, B-I-T-T-O-N. Je vais pouvoir demander à la personne à qui je vais parler dans quelques secondes de me donner sûrement son vrai nom. Et comme on parle du musée des Beaux-Arts, eh bien continuons d'en parler avec Madame Linda Gouzins. Je prononce bien votre nom, Madame Gouzins?
Presque, bonjour.
Ah, c'est presque bien. Alors,
c'est presque bien.
Ce serait quoi?
Alors, c'est Gosens.
Gosens. Ah, oh, ben c'est oui, ça. Effectivement, je vois pas pourquoi est-ce qu'on prononcerait deux O à l'anglaise.
Ah, ben oui, Gosens. C'est un nom flamand, alors ça se prononce à la flamande.
J'étais certaine. Je me disais, la madame, elle vient certainement de Belgique, comme moi, je viens de France. Alors, madame Gosens, vous êtes responsable des problèmes éducatifs et vous êtes responsable notamment des guides bénévoles. C'est bien ça, au
alors,
musée des Beaux-Arts.
Pas des problèmes, mais des programmes éducatifs.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit problème. Mon Dieu. Dieu, écoutez,
mais
je suis dans un état. Parce
ce
que
n'est
ça...
pas grave, parfois c'est un problème, mais on essaye que non, au contraire, on aime ça.
Pardon.
Alors, responsable des programmes éducatifs, des guides bénévoles au Musée des Beaux-Arts, et
oui.
C'est avec vous que je vais parler que nous offrons des visites guidées.
Oui.
Pour le public non-voyant
oui.
De toute notre communauté montréalaise et plus.
Et plus, hein. Alors, expliquez-nous, parce que moi je sais que c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement. À chaque fois qu'on annonce une expo, on dit, n'oubliez pas que vous pouvez aller, il y a des visites guidées si vous êtes non-voyant. Mais c'est sûr que vous allez pouvoir nous dire exactement comment ça se passe?
Alors, c'est assez simple. On offre deux visites guidées par mois.
Mm-hmm.
Donc, à chaque fois, il y en a une le deuxième mardi du mois, qui est à 10h30.
D'accord.
Qui est au sujet de l'exposition temporaire qui est à l'affiche dans le musée. Donc, en ce moment, c'est Chagall,
évidemment.
Par exemple. Et le troisième mardi du mois, on offre une visite à 13h. Et dans ce cas-là, c'est un parcours dans les diverses collections permanentes qu'on a du musée. À chaque fois, ça change de thème, de visite,
mm-hmm.
pour que les gens puissent revenir, pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc, on
Bien
change
sûr.
De collection à chaque mois. Et en fait, comment il faut faire? C'est assez simple, c'est que vous vous accompagnez, vous venez avec un accompagnateur,
mm-hmm.
en tant que personne
mm-hmm.
non-voyante, qui va suivre la visite avec vous, qui va la vivre avec vous dans les salles, avec le ou la guide, qui sont très, très bien préparés pour ce genre de public.
J'imagine. Hein?
Ah oui, il y a une préparation très spécifique, parce qu'on ne guide pas de la même façon, bien
mais
entendu.
Mais non, c'est ça.
Voilà. Et donc, vous et votre accompagnateur, mm-hmm. donc en tant que non-voyant ou malvoyant, vous allez parcourir les salles avec le guide. On a maximum 10 personnes par inscription.
Okay.
Donc, 5 non-voyants avec les 5 accompagnateurs. Parce que justement, on ne veut pas que les groupes soient trop gros.
Mais
on
non.
veut qu'il y ait une belle dynamique d'interaction durant mm-hmm. la visite. Et on veut que tout le monde puisse se rapprocher des œuvres
oui.
d'autant qu'on peut et avec être en état de communication. Donc, c'est pour ça qu'on prend des petits groupes. Et il y a aussi une raison, c'est qu'on doit circuler dans les salles. Donc,
oui.
l'accompagnateur va aider le non-voyant à se déplacer.
Mm-hmm.
Pour des raisons de sécurité des personnes, on fait attention parce qu'il y a des œuvres d'art un petit peu partout. Et
Bien
aussi,
sûr.
Pour la raison de sécurité des œuvres, c'est important d'avoir quelqu'un avec nous qui va vivre la oui. visite en même temps que nous.
Bon, alors maintenant, ce que je voudrais savoir, parce que je suis évidemment très curieuse et qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore osé y aller
mm-hmm.
en se disant, mais... Je
ne
sais pas, je prends, voilà
ouais.
pourquoi, mais je prends Chagall, ok. Chagall
ouais.
qui est éminemment coloré, je veux dire, qui est quand même certainement un des plus grands, si ce n'est le plus grand coloriste au monde.
Ouais.
Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Tout à
comment
fait.
Comment ça se passe au niveau, est-ce qu'on, Est-ce qu'on décrit? Est-ce qu'on... Oui. Voilà, c'est
alors,
ça que je
voulais
savoir.
C'est que le guide, en fait, va préparer sa façon d'animer la visite, surtout sur la base de la description.
D'accord.
Mais des descriptions qui sont, comment est-ce que je vous dirais ça, qui sont progressives, où on va rentrer dans l'œuvre pas à pas.
D'accord.
Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les couleurs qu'on ne peut pas parler des couleurs.
Non,
parce
bien sûr, bien sûr.
On va en parler peut-être après, mais il y a différentes stimulations dans le cerveau. Donc, on parle des couleurs... Pas à pas, on rentre en connexion avec l'œuvre. On peut parler de la vie de l'artiste.
Bien
de,
sûr,
on,
oui.
On tourne dans l'œuvre pas à pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le non-voyant ou le malvoyant va créer, reconstruire une image mentale de ce qu'on lui décrit.
Ah oui. Hein.
Le guide devient en fait un souffleur d'image.
Oui, exactement. Donc, d'ailleurs, comme quand un non-voyant voyage ou une chose comme ça, c'est ça.
C'est ça. Donc, il y a un processus de création qui se fait. Donc, au contact avec une œuvre d'art, même si on ne la voit pas de ses yeux comme nous, on voit autre chose.
Bien sûr, exactement.
Donc on est stimulé d'une autre façon et les bienfaits sont tout aussi importants que pour une personne qui voit les œuvres avec des yeux.
Ah, oui.
Donc c'est très très intéressant pour les non-voyants.
Est-ce qu'on assiste à des moments d'émotion? Excusez-moi de vous avoir interrompu.
Non, allez-y.
Non, c'est ça, c'est parce que on sait que l'art passe souvent, surtout l'art pictural comme ça, passe souvent par l'œil.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments d'émotion? Est-ce que ça arrive? Bien sûr. Hein?
Bien sûr. Alors moi, je n'ai pas assisté à toutes les visites parce qu'il y a une équipe de guides en bas qui travaille vraiment très fort avec ce public-là et qui vivent toutes ces expériences diverses au quotidien. Mais oui, il y a des moments d'émotion. Et même moi, j'en ai vécu en observant une visite et en la vivant avec des groupes. Il y a des moments où on se rend compte que finalement, on voit des choses, ils voient des choses. Et moi, par exemple, il y a un exemple de visite, je suivais la visite et grâce en fait, à ces visites particulières, nous avons l'occasion, et c'est l'unique moment, c'est l'unique public qui y a accès, on a l'occasion de toucher des œuvres.
Ah oui.
Donc il y a certaines œuvres d'art dont on a l'autorisation de toucher avec des gants, bien entendu.
Oui, oui.
Mais quand on touche une œuvre d'art, ce sont des sculptures, c'est jamais des tableaux, mais on voit des choses qu'on ne voit pas avec les yeux.
Oui.
Donc toucher crée l'émotion, forcément, parce que l'émotion esthétique, elle est là. Elle n'est pas forcément avec les yeux au premier abord, mais elle se passe à travers nos doigts, à travers nos mains. Et en touchant une œuvre, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, je la regardais depuis 16 ans dans le musée. Donc l'émotion esthétique, elle est présente, même si elle s'amorce de façon différente, mais elle est toujours là.
Écoutez, Madame Gozens, j'ai envie de parler avec vous pendant des heures et des heures. Malheureusement, nous sommes dans une émission d'actualité, alors il va falloir que je continue à développer cette actualité-là. Mais écoutez, je pense que ça vaudrait le coup qu'on en sache plus encore
bien
et peut-être
sûr.
Même, je sais pas, d'aller me balader à un moment donné et puis faire du
Venez
son.
Donc.
Faire du son, comme on dit, puis en tout cas, parce qu'après tout, on fait de la radio. Ça m'intéresserait beaucoup. On va rappeler donc l'heure des visites pour les personnes qui nous écoutent.
Pour les personnes qui sont intéressées, c'est assez simple. Donc c'est tous les deuxièmes et mardis du mois. Quand vous avez envie de vous inscrire à une de ces visites, vous devez téléphoner minimum une semaine à l'avance parce
D'accord.
que c'est sur inscription. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça, à moins qu'il y ait des places, mais c'est parce que c'est rare qu'il y ait des places, surtout pour les visites en français. Donc, vous appelez le musée au 514-285-2000. Vous faites l'option 3 et là, vous avez les adjointes qui vont répondre à vos questions et vous permettre de vous inscrire à l'une des visites de votre choix. Et il y a plus de... Il y a plus de personnes qui s'inscrivent en français qu'en anglais. Donc, il y a toujours plus de place pour les visites anglophones que pour les visites en français. Donc, si vous êtes bilingue et qu'il n'y a plus de place en français, inscrivez-vous à une visite en anglais.
D'accord.
Et voilà. Donc,
parfait.
Venez.
Oui, écoutez, Madame Gozens, voilà, je vais l'avoir un jour. Vraiment, merci mille fois. Vous nous avez donné le goût de partager ce moment intense qu'est une visite guidée pour non-voyants dans les couloirs du Musée des Beaux-Arts. Merci.
Ça fait plaisir.
Bonne fin de journée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, les groupes d'intégration sociale du Centre de formation générale des adultes L'Horizon de Val-d'Or ont réalisé une vidéo touchante. On y démontre que malgré leurs différences, les déficiences intellectuelles ont des intérêts et des rêves, comme tout le monde. La vidéo, des gens tout comme toi, met en vedette 33 élèves. Elle a été présentée mardi dans le cadre de la 29e semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui se déroule encore en ce moment, et ce jusqu'au 18 mars. On a réalisé ce projet afin de faire tomber les préjugés. Oui, ils sont différents, mais ils ont des ressemblances avec nous. Ce sont des humains à part entière. Ils sont authentiques, beaux, gentils. Il ne faut pas avoir peur de leur dire bonjour. On espère une ouverture d'esprit face à eux grâce à cette vidéo, a mentionné l'enseignante Audrey Gagné. Impossible de rester de glace devant cette vidéo touchante, drôle et simple. On y présente les élèves et les déficiences avec lesquelles ils doivent apprendre à vivre, dont le syndrome du X fragile, sensibilité au son, le syndrome de William, notamment les traits de lutin, les troubles de langage, le spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale et bien sûr la trisomie 21. Je vous présente Gary et Jean-Marie. Comme tous leurs camarades de classe, ils ont une déficience intellectuelle. Gary parle peu, il est plutôt solitaire. Mais tout comme toi, il aime relaxer devant un bon film. Jean-Marie parle beaucoup, mais on ne le comprend pas toujours. Mais comme toi, il aime marcher dans la nature, a précisé une voix narrative. Mireille, Annabelle et David ont manqué d'oxygène à la naissance ou durant la grossesse. Leur cerveau ne fonctionne pas comme le tien. Ils ont besoin d'une accompagnatrice en tout temps. Mais comme toi, Mireille aime sortir prendre un café. Annabelle aime manger un bon repas en famille. Et David adore les livres, a-t-elle ajouté. Les élèves ont bien aimé cette expérience de tournage. J'ai vraiment aimé cela. C'était un rêve que j'avais. J'aime l'école et c'était important pour moi, a affirmé Nadia Pelletier. Il y en a un autre qui a dit « Oh, j'étais un peu stressée de faire la vidéo, mais là, je me sens mieux. Je dis dedans que je parle un peu fort. » C'est comme ça, a indiqué Sébastien. Et puis, déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme, une journée d'information à Saint-Jérôme. Le comité des usagers du programme DITASA DP du CISSS des Laurentides invite sa clientèle, ses proches ainsi que le grand public à participer à une journée d'information gratuite portant sur la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme et la déficience physique. L'événement se tiendra le lundi 27 mars 2017. De 13h à 20h30 au Best Western Hôtel Saint-Jérôme, situé au 420 Monseigneur Dubois à Saint-Jérôme. Elle est arrivée, elle nous a parlé il y a quelques semaines du premier salon des maladies orphelines. Je lui avais donné une espèce de rendez-vous, je lui avais dit « va falloir savoir comment ça s'est passé ». Alors elle va nous en parler aujourd'hui, Madame Gayle Ouellet, directrice du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour Madame Ouellet.
Bonjour.
Alors, ça y est, c'est passé ce premier salon des maladies orphelines. Et comment ça s'est passé?
Ah bien, très bien. On est très, très contents.
C'est vrai?
Ah oui. C'est, je pense que ça dépassait nos espérances.
Oui, bravo. Alors donc, vous avez eu beaucoup de monde, beaucoup de retours. Quelles étaient vos appréhensions, d'ailleurs?
Oui, c'est ça. Je pense qu'une appréhension de ma part, c'est que le salon, évidemment, il y avait deux composantes. Il y avait des kiosques de 20 associations de maladies rares et il y avait aussi des personnes avec des maladies qui n'ont pas de kiosque. Donc, il y avait un endroit pour eux, mais il y avait aussi nos invités spéciaux, Pierre Lavoie, Martin Deschamps, puis des témoignages. Et ce qu'on appréhendait, c'est que qu'il n'y ait pas de gens qui aillent voir les kiosques, hein, parce que on savait pas à quoi s'attendre. C'est quand même pas un salon des loisirs, hein, ou un salon de l'auto, ou un
non.
Salon. Alors, on se demandait, est-ce que les gens vont vraiment aller visiter des kiosques, parler avec les associations de chacune des maladies? Puis, finalement, oui.
Mais oui.
Toutes les associations ont été bien contentes de comment ça s'est passé.
Comme quoi, ça répond à un besoin. Je veux dire, il y a ça aussi, quoi. Il y a malheureusement trop de gens qui sont laissés à eux-mêmes, hein, parce que c'est ça le véritable problème avec ces maladies orphelines, là.
Oui, tout à fait. Hein. Puis je pense qu'il y a eu on a rempli un double objectif. Il y a justement les gens qui se sentent seuls, puis ils sont venus soit parce qu'une maladie les concernait, puis il y avait l'association, mais beaucoup... elles n'ont pas d'association, donc on est comme un lieu de rassemblement. Alors, pour eux, aller parler, même avec des gens qui ont une autre maladie, c'est habituellement, c'est très positif pour eux parce que sinon, ils sont dans un monde à part.
Ils sortent de l'isolement.
Hein? Exactement. Et donc, il y a eu ça. Puis le deuxième objectif qui était sensibiliser le grand public, bien là, on a pu sensibiliser dans un endroit comme ça, au complexe des jardins, qui est en fait un endroit merveilleux. C'était tellement beau. Où les gens, surtout le midi, là, où les gens allaient chercher quelque chose à manger, des gens qui travaillent, qui magasinent, et puis ont pu s'arrêter, puis découvrir c'est quoi ces maladies-là.
Ah oui. Et d'après vous, alors, qu'est-ce qui aurait marché le mieux? Je m'excuse parce que ça fait un petit peu salon de l'auto, mon affaire, justement. Quelle est la voiture qui a le plus poigné? Non, c'est pas ça du tout, évidemment.
Mais... écoutez, c'est... je pense que finalement, ça a été égal-égal.
Égal-égal, hein, entre les conférences et les kiosques.
Les associations ont été bien visitées. Fait que ça a réglé ma fameuse appréhension, mais... Évidemment, nos témoins, nos personnes, il y a le petit, je veux pas l'appeler, le petit est rendu à 13 ans, c'est parce que je l'ai connu.
Oui,
très jeune.
Oui, je comprends.
Loïc Bidal, qui a la maladie de Morquio et puis qui habituellement habite à l'hôpital, toujours. Hein? Puis là, il est venu pour le salon, il a fait un témoignage avec sa mère et puis Madame Rosemary Ticlé aussi.
Oui.
Et la conférence de une petite conférence de Pierre Lavoie, puis la prestation de Martin Deschamps.
Ah oui, hein.
Tous ces quatre témoignages, là, les gens ont été émus. Les gens sont venus nous voir, puis ils ont dit.
Il est généreux, ce type-là. Hein?
Et pour les personnes qui ont des maladies, ils se reconnaissaient.
Bien sûr. Bien sûr.
Dans le vécu de M. Deschamps, de Rosemary.
Oui. Écoutez, c'était une première, ça veut dire qu'il va y avoir une seconde.
Bien, on savait pas quoi s'attendre, on avait laissé ça au futur, là.
Oui.
Mais toute l'équipe, là, il y a quelqu'un qui s'est chargé de faire un bilan dont je vais prendre connaissance la semaine prochaine, plus, et on va discuter au conseil d'administration. Mais évidemment, comme on trouve ça positif, et puis on pense bien refaire, il y aurait sûrement des petits ajustements.
Oui, mais ça toujours, de toute façon. Oui.
Mais c'est...
Bravo, Mme Ouellette.
Ça a été... En tout cas, on va sûrement voir quelque chose de semblable.
Oui. Moi, j'en suis sûre. J'ai bien confiance parce que c'est important ce que vous faites, encore une fois, pour briser l'isolement de ces gens-là, quoi, qui se sentent tout seuls, enfermés dans leur maladie, aussi bien eux que leur entourage, quoi. Voilà.
Ah oui, tout à fait. Il faut continuer.
Oui.
Il faut tout faire. C'est vraiment le point principal.
Et on continuera de vous appuyer là-dedans, Mme Ouellette. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
Bien, je vous remercie. Vous êtes, et merci de toujours être là.
Mais je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Au Manitoba, manque d'accessibilité à l'Assemblée, visite guidée de Stephen Fletcher à Rick Hansen. L'athlète paralympique de renom, Rick Hansen, mieux connu comme l'homme en mouvement, déclare qu'il faut encore beaucoup de modifications avant que le palais législatif du Manitoba soit vraiment accessible à tous, y compris les visiteurs, les employés et les politiciens handicapés. M. Hansen a rencontré mercredi le député d'Assiniboia, Stephen Fletcher, lui-même handicapé, lequel a offert à celui qui est également président-directeur général de la Fondation Rick Hansen une tournée de son bureau et de la chambre. Ancien député fédéral, Stephen Fletcher est devenu tétraplégique à l'âge de 23 ans. À la suite d'un accident de la route, il doit se déplacer en fauteuil roulant. Bien que certains aspects du palais législatif du Manitoba aient déjà été modifiés, d'autres endroits sont toujours inaccessibles aux députés progressistes conservateurs. C'est notamment le cas de l'étage central et de la Chambre des députés, qui est en contrebas. Monsieur Fletcher dit que ça l'empêche d'avoir accès à la partie la plus importante de la pièce, où sont notamment réunis les greffiers, le Premier ministre et la chef de l'opposition. Il y a très évidemment des barrières structurelles. L'athlète paralympique reconnaît qu'il y a eu des améliorations à l'édifice au cours des années, notamment une rampe donnant accès à l'entrée principale qui a été ajoutée par le premier ministre d'alors, Gary Doer. Mais on est en 2017 et nos attentes ont évolué, souligne M. Hansen. Ce n'est pas tout simplement une question de permettre à tout le monde d'entrer dans le bâtiment. Il faut permettre à des gens comme Steven de travailler dans l'édifice et de représenter sa circonscription, qu'il soit handicapé ou non, conclut-il. À l'international, plus de 300 000 morts, 1 million de blessés, des millions de réfugiés pour arrêter le massacre de civils. En Syrie, Handicap International a lancé mardi à Lyon une campagne qui s'appelle Stop Bombing Civilians, donc arrêter de bombarder les civils. Et j'imagine que c'est en anglais parce qu'on parle de Handicap International et que l'anglais est à ce jour encore la langue la plus parlée dans le monde. Alors, ce sera accompagné d'une exposition à l'occasion du 6e anniversaire du conflit. L'ONG a pour objectif de réunir 1 million de signatures sur le site www.handicapinternational.fr, signer pétition pour remise aux décideurs politiques en septembre 2018. Elle donne également rendez-vous au public mardi soir, place Bellecour, au centre de Lyon, pour soutenir les victimes de ce conflit. L'image d'une prothèse sera symboliquement projetée sur la statue de Louis XIV qui trône sur la place de Lyon. Après 30 ans de combat contre les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions qui ont abouti à 2 traités d'interdiction, l'association renouvelle son appel massif à la société civile pour faire pression sur les États. Du 22 au 24 mars 2017 se tiendra le 42e congrès international annuel de l'Institut TA, un congrès auquel Canal M est associé. Troubles d'apprentissage et défis dans le monde d'aujourd'hui. Vous pourrez prendre part, si vous le désirez, au rassemblement des plus grands au service des élèves ayant des besoins particuliers. Pour y entendre qui, quoi, eh bien, les incontournables en 2017 seront l'allocution de M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Il y aura aussi des conférenciers de renommée internationale, tels que Monique Broder, Égide Royer, Pierre Fortin, Jean Écal, Annie Magnan, Linda Siegel et bien d'autres. Et puis beaucoup de conférences traitant de dépistage et d'intervention précoce, les maternelles 4 ans, troubles d'apprentissage et multiculturalisme, défis et solutions associées à l'éducation chez les Premières Nations, le modèle de réponse à l'intervention, plaisir et investissement en mathématiques, etc. Ça va se tenir du 22 au 24 mars 2017 à l'hôtel Westin de Montréal. On attend près de 1500 congressistes et il y aura 45 exposants, dont d'ailleurs Canal M qui sera là pour vous informer sur la mission de notre radio et tout cela sous la présidence d'honneur de Madame Brigitte Stanquet, orthophoniste et professeure à l'Université de Montréal. Pour plus d'informations, institua.com/congrès/congrès2017. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous retrouve lundi prochain dès 11h30. Merci à mon équipe et à vous.